Hello! Le podcast Job & Sense revient dans tes oreilles avec un hors-série qui s'appelle Mon Rebond. Mon Rebond, ce sont des témoignages de personnes qui ont repris le chemin du travail après une période d'arrêt maladie. On parlera ensemble de comment ils ont vécu leur période d'incapacité de travail, de qui les a soutenus et de comment ils en sont arrivés à rebondir. Chaque histoire est unique, mais chaque discussion est riche de petites pépites à garder quelle que soit notre propre situation. Tu verras également qu'il n'y a pas une bonne façon de rebondir. La bonne façon de rebondir sera celle que tu choisiras et qui te correspondra. Le hors-série Mon Rebond a été créé pour compléter le salon Rebondir qui a lieu du 17 au 21 octobre 2022. Si tu écoutes cet épisode avant ou pendant la semaine du salon, il est encore temps de nous y rejoindre. Tu verras que parfois le son n'est pas excellent, mais comme on dit, mieux vaut fait que parfait. J'espère que ces épisodes te plairont autant à toi qu'à moi, parce que j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à les enregistrer. Bonne écoute! Bonjour Caroline.
Bonjour Victoria.
Merci beaucoup d'avoir voulu partager ton témoignage aujourd'hui sur le podcast de Job & Sense.
Avec grand plaisir. Si ça peut profiter à d'autres personnes pour faire un petit pas ou pour réfléchir, ce sera déjà un formidable cadeau. Donc, merci à toi pour la proposition.
Super. Je commence toujours par une première question qui est une présentation de toi un peu librement, comme tu le souhaites.
Je m'appelle Caroline Gagnon, j'ai 42 ans. Je suis l'heureuse, très heureuse maman d'une petite fille qui a 9 ans. Je vis avec mon compagnon à Rosières, dans un lieu vraiment paisible et en même temps près des animations, près des villes. Et depuis presque 2 ans et demi, je me suis lancée comme indépendante pour des activités que je faisais déjà en étant salariée dans les ressources humaines, puisque j'accompagne des personnes dans le cadre d'ateliers, de rendez-vous individuels, d'outplacement, à pouvoir cheminer autour de réflexions personnelles et d'une éventuelle transition professionnelle. Et également, depuis peu, puisque je me suis formée à l'UCL, pour ça, j'accompagne également des personnes qui s'apprêtent à vivre un burn-out peut-être, ou qui sont en pleine dent, ou qui sont au contraire au bout du tunnel pour pouvoir reprendre un nouveau chemin de vie et un nouveau chemin professionnel.
Mmh. Ce qui pourrait intéresser effectivement peut-être des personnes qui nous écouteront sur le podcast. Et comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Comment va ta santé?
Alors, étant donné que j'ai vécu un burn-out il y a presque 6 ans, je vais évidemment mieux, enfin évidemment, même si ça peut durer très très longtemps pour certaines personnes, mais je me sens vraiment mieux. J'ai envie de dire que comme certaines personnes qui en vivent un ou qui en ont vécu un, je le vois vraiment comme un cadeau qui m'a permis vraiment de pouvoir mieux me connaître, de pouvoir mieux me sentir, c'est-à-dire d'être mieux connectée non seulement à mes émotions, à mes pensées aussi, à être consciente que je ne suis pas mes pensées et que je peux en prendre justement, je peux prendre de la distance et être surtout connectée à mes ressentis. Parce que comme on peut parfois le dire, on a un corps, mais on est un corps. Et par rapport à ça, je me sens beaucoup plus consciente, beaucoup mieux connectée à moi-même de manière générale. Ce qui veut dire aussi que je dois quand même aussi toujours rester vigilante par rapport à certaines habitudes, à certains réflexes qu'on peut avoir, parce qu'il s'agit effectivement de pouvoir désapprendre toute une série d'habitudes, qu'elles soient d'ordre mental ou même d'ordre aussi émotionnel ou voire corporel, pour pouvoir justement les mieux se respecter et de mieux fonctionner justement par rapport à tous ces signaux.
Du coup, tu es fort à l'écoute de ton corps, quoi.
Alors, oui, tout à fait.
Oui. Et donc, merci. Aujourd'hui, tu viens gentiment nous parler de ton rebond, du coup, après ton burn-out qui a eu lieu il y a 6 ans. Du coup, quelles étaient finalement
les signes précurseurs, qu'est-ce que tu as ressenti et quand est-ce que tu as commencé à te dire, tiens, ben là, c'est plus possible finalement?
Je dirais que rétrospectivement, évidemment, je peux prendre du recul et évidemment, j'ai une réflexion par rapport à tout ça. Et c'était dans le cadre de l'année 2016, notamment en 2016, mais il y a probablement eu des signaux d'alerte avant. Mais à Pâques, je me souviens que j'ai eu déjà un arrêt de travail quand même assez conséquent de 6 semaines qui s'est fait par à-coup, où là, je me sentais vraiment en décalage. Je me sentais en décalage avec plein de choses, tant avec mon travail qu'avec aussi des activités qui pouvaient me donner du plaisir ou qui pouvaient me ressourcer. Donc, je me sentais vraiment épuisée, fatiguée, tant physiquement qu'émotionnellement, mentalement. Je me posais évidemment beaucoup de questions. Il y avait toute une série de choses qui perdaient vraiment de leur saveur, qui perdaient du sens, notamment au niveau de mon travail. Et si je remonte encore beaucoup plus loin, plusieurs années avant, il y a eu vraiment des périodes où j'ai donné beaucoup, beaucoup d'énergie, que ce soit dans la rénovation d'une maison pendant 2 ans, puis ensuite ça a été une maternité que j'ai vécue de manière très, très, très heureuse, mais où je me suis énormément investie vu la manière dont l'accouchement s'était passé. J'ai compensé énormément après, mais énormément. Et donc ça a été, je pense, là plusieurs petits coups de canif, on va dire, à ma santé au niveau de mon physique, où j'ai demandé à mon corps énormément. J'ai d'ailleurs pas voulu toujours voir à un moment donné les signaux qui se passaient, que ce soit classiquement au niveau de la tête, au niveau du dos, au niveau de différents organes. Et puis, comme je l'ai dit hein, aussi, je suis quelqu'un de très sensible et aussi d'émotive. Et là, c'était encore plus wallibique d'habitude. Donc voilà, je dirais que je m'en suis pas forcément rendu compte sur le moment même parce que c'était espacé et parce qu'il y avait aussi de très bons moments qui venaient compenser. Mais c'est surtout dans le courant de l'année fin 2015 et dans le courant de l'année 2016 à Pâques où là ça a été vraiment beaucoup plus intense. Et d'ailleurs je me souviens que l'été 2016 j'ai commencé à me renseigner autour de ce qui est devenu beaucoup plus commun aujourd'hui qui est la méditation de pleine conscience. Et donc, l'été 2016, je me suis amusée à analyser les différentes offres autour de moi d'animatrices, d'animateurs qui proposaient des cycles de méditation de pleine conscience parce que j'avais justement envie de pouvoir me ressourcer d'une manière différente. J'avais été voir, bien sûr, un coach, j'avais même été voir une sophrologue à Pâques pour m'aider déjà à me reconnecter à mes émotions d'une autre façon, donc, que voilà, l'analyse plus classique peut-être avec un psy pour justement aller chercher des informations d'une autre façon. Et donc, c'était peut-être prémonitoire parce que quand j'ai quand même, je me suis lancée dans ce cycle de méditation de pleine conscience, je me souviens que c'était en octobre-novembre 2016, ça m'a été d'un grand bénéfice puisque j'avais connu ma crise, mon point de non-retour fin septembre 2016. Et donc, ça a été, j'ai envie de dire, c'était pas du tout prémédité, mais c'est vraiment très, très bien tombé pour justement apprendre à souffler et à me reconnecter doucement à moi.
Tu avais déjà, du coup, avant de tout à fait tomber en burn-out, tu avais déjà fait des choses pour justement essayer de gérer ton stress, tout ce qui est pleine de conscience, etc. Mais tout ça n'a malheureusement pas suffi à ce moment-là. Tu as commencé ton arrêt de maladie fin septembre, c'est ça? Et oui. À ce moment-là, comment se sont passés tes premiers mois?
Alors, effectivement, comme tu le soulignes, j'ai essayé de mettre en place des choses de mon côté pour pouvoir essayer de compenser l'épuisement et le mal-être qui s'installait de manière beaucoup plus intense et de manière aussi surtout plus durable. Mm-hmm. Mais bon, voilà, j'étais un élément dans un système qui dysfonctionnait, en tout cas qui ne fonctionnait pas de manière saine. Bon, comme c'est le cas pour beaucoup de personnes, voilà, au niveau de mon travail, on était clairement sous-effectif. Il y avait ce qu'on appelle aussi des injonctions paradoxales. J'avais une perte de sens. J'étais amenée à devoir faire des choses qui étaient vraiment contraires à mes valeurs ou en tous les cas qui ne me correspondaient vraiment plus. Et il y avait en fait, et c'est en ça où à un moment donné ça a lâché, c'est que l'effort, il a été de plus en plus intense et surtout on n'en voyait pas la fin. Je dis on parce que j'étais pas la seule à vivre ça. Et c'est pour ça que je parle d'un système aussi. En gros, on essayait de mordre sur la chic, on essayait de s'adapter, de se suradapter. Mais à un moment donné, quand ça dure dans le temps et que les efforts sont surtout amenés par les personnes qui vivent justement ces tensions, à un moment donné, si le système autour de soi ne change pas un minimum, à un moment donné, le crash est inévitable. Et je me souviens encore très bien de ce week-end où je me suis effondrée. Je me suis effondrée et je me suis levée très tôt ce jour-là et j'étais en larmes. Et j'avais une seule certitude, c'est que je ne pourrais pas retourner travailler. Tellement j'étais mal, tellement je me souviens que j'étais complètement oppressée, j'avais des crampes au ventre. Et j'ai appelé une amie qui avait quitté d'ailleurs aussi l'institution quelques semaines auparavant, qui s'était lancée comme coach. Je peux la citer ici si jamais elle nous entend. Tu sais de qui je parle, Jessica Dessy, je parle de toi. Quand je t'ai appelée ce dimanche-là, où j'étais en larmes et j'étais vraiment dans le 36e dessous, et elle m'a dit quelque chose de très simple, mais de tellement réconfortant, de me dire, eh bien, Caro, c'est simple, tu n'iras pas travailler demain et tu vas aller voir ton médecin. Et j'avais vraiment juste besoin de quelqu'un qui me rassure et qui me dise quoi faire à ce moment-là, parce que j'étais complètement perdue avec ce qui se passait dans mon corps, ce qui se passait dans mes émotions. Et voilà. Et donc, je suis allée voir mon médecin. Et comme ce n'était pas la première fois qu'elle me voyait, puisqu'elle m'avait déjà vue 6 mois avant, voilà, elle était désolée pour moi, mais c'était prévisible. Et je tiens juste à dire, en expliquant cet épisode, qu'on parle énormément de burn-out à l'heure actuelle et qu'il est même il est servi à toutes les sauces. Et que c'est probablement... C'est un diagnostic qui est parfois souvent galvaudé même. D'ailleurs, les spécialistes qu'on a pu rencontrer dans le cadre de la formation à l'UCL, Maureen Mikolochak et Isabelle Roskam nous l'ont dit effectivement, qu'il est un petit peu presque usurpé dans le sens qu'il est surdiagnostiqué. Mais en tous les cas, c'est quelque chose... Le burn-out, c'est une maladie. C'est quelque chose qui tombe sur la personne et où la personne n'a pas le choix. Donc, ce n'est pas une décision... volontaire, c'est pas une décision qui est consciente de se dire hop, je vais tomber en burn-out. Non, on ne le décide pas. C'est le corps à un moment donné qui pousse le micro tellement fort qu'on peut plus faire semblant de l'écouter parce que ça pète. Et c'est le corps qui explose en fait. En plus parfois d'une surcharge émotionnelle d'émotions où on est complètement dépassé. Donc on ne décide pas de tomber en burn-out, tout comme on ne décide pas à un moment donné d'y résister. J'ai entendu, effectivement, je peux entendre des personnes qui disent « Oui, je ne voulais pas tomber en burn-out et donc voilà, tant mieux si la personne a pu trouver les ressources en elle et autour d'elle, à l'extérieur, pour effectivement échapper à ça. » Mais je tiens à dire qu'à un moment donné, on n'a pas le choix. On ne décide pas, en fait. C'est quelque chose qui submerge.
Du coup, tu as vite accepté ce diagnostic de burn-out ?
De fait, je ne pouvais que m'y résoudre parce que j'étais plus moi, en fait, et que j'avais plus la moindre énergie, que j'étais dans un no man's land. Je me souviens que c'est le terme que j'utilisais à l'époque et qui me revient, parce que je ne savais pas ce qui m'arrivait, je ne me reconnaissais plus au niveau de mes émotions, au niveau de ce que je voulais, de ce que je ne voulais pas, de comment je me ressentais dans mon corps, parce que j'avais vraiment plus d'énergie. La seule chose à laquelle je pouvais me raccrocher, et ce n'était pas très rassurant, c'était que je ne pouvais plus retourner travailler. Ça, c'était la seule évidence à laquelle je pouvais me raccrocher et qui n'était pas très réjouissante. Ensuite, ça a été la quête d'un médecin plus spécialisé, vraiment par rapport à ça, parce qu'effectivement, il y avait un mal-être qui dépassait un peu mon médecin généraliste, et je le dis vraiment avec beaucoup de reconnaissance pour elle, et aucune critique. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, et c'est déjà encore le cas aujourd'hui, mais à l'époque, bon nombre de médecins traitants étaient démunis par rapport à ça, se retrouvent parfois un peu limités dans la manière dont ils peuvent accompagner des patients qui vivent ça. Et donc, beaucoup s'informent, se spécialisent et se forment aussi. Et donc, je me suis mise en quête d'un médecin qui était spécialisé là-dedans. J'ai mis longtemps à le trouver parce que celui que j'avais trouvé ne me convenait pas. Vu l'épuisement émotionnel et la manière dont ça se manifestait, il voulait me donner des médicaments, des antidépresseurs et des calmants, chose que je ne voulais absolument pas. Je ne me sentais donc pas non plus dans une relation où je me sentais accompagnée comme je le voulais. Et par la suite des choses, vraiment, quand je regarde, ça a été comme une espèce de parcours de jeu de loi où les étapes les plus importantes ont toujours correspondu à des rencontres. Des rencontres entre guillemets fortuites ou pas. J'aime aujourd'hui parler vraiment de synchronicité ou autrement dit des heureux hasards qui ont leur sens, qu'on ne comprend peut-être pas toujours sur le moment même. Et ces rencontres m'ont amené notamment à aller écouter Anne Evrard qui a écrit le guide de burn-out à l'époque, qui venait de le sortir et qui en parlait, avec qui j'ai pu échanger. Il m'a elle-même conseiller un cabinet de médecin pas très loin de chez moi, où là, ça a été vraiment, vraiment le début pour moi, le début d'un vrai accompagnement médical, où j'ai pu vraiment me sentir entendue, reconnue dans ce que je vivais, puisque l'autre médecin m'avait diagnostiqué dépressive. Là, effectivement, le médecin en face de moi a lu en moi comme un livre ouvert. Au vu de tous les cas qu'elle accompagnait, il y avait effectivement toute une série de points communs. Le diagnostic, là, vraiment a été posé sur base de questionnaires, sur base de toute une série d'analyses médicales, etc. Et là, je dois dire que pour la première fois, j'ai un peu baissé les armes et j'ai commencé vraiment à pouvoir récupérer. C'est les premières fois où j'ai pu dormir en journée pour enfin récupérer de l'énergie. Parce que fondamentalement, avec un burn-out, la première chose dont on a besoin, c'est de ne rien faire, c'est de recharger les batteries. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est parfois confrontant, avec lesquels les personnes ont du mal, parce qu'on est dans une telle, on a été jusqu'à présent dans une telle suractivité à tous les niveaux, au niveau du boulot, vie sociale, vie familiale et autres, qu'à un moment donné, oui, ralentir, voire carrément stopper la machine, c'est quelque chose qui est complètement inhabituel et presque impensable. Mais à partir de là, effectivement, j'ai eu une forme de reconnaissance et de permission à pouvoir, quelque part, me dire « c'est normal ce que tu vis, et donc, il va falloir te reposer ». Et à partir de là, le corps a commencé vraiment à pouvoir se relâcher aussi. J'ai commencé petit à petit à pouvoir récupérer. Et une suite de rencontres s'en est suivie une fois de plus.
Et c'était un suivi médical uniquement ou tu avais aussi un suivi thérapeutique, psychologique
Alors, j'avais un suivi médical, mais ce médecin était elle-même formée dans toute une série d'approches psychologiques. Donc, les rendez-vous avec elle duraient une heure et demie. Hein. Donc, j'avais l'écoute. J'allais également voir une coach spécialisée aussi dans l'accompagnement des burn-out. Et puis, je suivais vraiment à la lettre les prescriptions que mon médecin me faisait, à savoir rester allongée pour mettre les glandes surrénales vraiment au repos en étant complètement à la verticale. J'allais énormément me balader en nature. Je limitais vraiment les sollicitations pour pouvoir vraiment me reconnecter à moi et apprendre aussi à respirer. Ça peut paraître bête, mais apprendre vraiment à bien respirer, apprendre à bien manger. Vraiment être à l'écoute de ce que le corps a besoin. Elle m'a conseillé effectivement l'un ou l'autre complément alimentaire parce qu'il y avait des carences, clairement. Et je me suis, alors c'était en fait un vrai travail en fait de ne plus faire grand chose. Parce que la tentation en fait c'est de se dire en fait je suis chez moi et on se sent pas utile à quelque chose. On a l'impression que ce qu'on fait c'est la base. S'occuper du repas, d'aller faire des courses, de lancer des machines, d'aller chercher son enfant à l'école, de faire un peu la paperasse. C'était au moins la moindre des choses. Et pourtant, même ça, c'était compliqué. Je me souviens qu'au tout début, c'était insurmontable de devoir me lever pour aller prendre ma douche et aller conduire ma fille à l'école. C'était une montagne presque. Et en fait, ça a été vraiment à ce niveau-là, un pas après l'autre. Et déjà à ce moment-là, c'était de s'écouter. C'était de se dire, c'était d'oser oser se poser déjà des limites, enfin, en tout cas, pouvoir les entendre, de pouvoir diminuer le volume de la petite voix qui dit, voilà, allez, rebouche-toi, rends-toi utile, tu fais rien, redonne un sens à ce que tu fais. Ah oui, mais voilà, de le faire à un autre rythme, en fait, et de reprendre le temps, parce que ce serait risquer au contraire de mettre la charrue avant les bœufs et de retomber dans certains travers, ou bien de faire des choix qui ne sont pas guidés par les vraies bonnes raisons. Et je me souviens qu'à ce moment-là, ben, au mois de juin, j'ai eu vent d'une formation en outil de coaching qui m'avait toujours tentée depuis longtemps. Et je me suis dit, il y avait une séance d'info. Et je ne sais pas pourquoi. Je me dis, on pouvait le suivre tout à fait de manière libre, comme dans le cadre vraiment d'un développement personnel pour soi. Donc, certainement pas d'emblée, parce qu'on veut être coach. Et j'ai été à cette séance d'info. Et pour la première fois depuis longtemps, je regoutais à des choses où, en fait, je ressentais la petite flamme qui s'allumait, quoi. Comme si on tournait un peu le bouton d'une gazinière et que le bec bunzen vouf, alimente un peu, c'était un peu la même chose. Et évidemment, mon mental me disait, qu'est-ce que tu veux en faire, et c'est quand même un certain budget. Donc, de nouveau, la charrue avant les bœufs. Et tout ce que je me souviens, c'est que je ne savais pas ce que j'allais faire, enfin, ce que j'allais en faire, si ça allait m'être utile. Et pour la première fois, j'ai fait un choix en me disant, eh ben oui, et je ne sais pas à quoi ça va servir.
Et ça, c'était 9 mois après…
C'était en juin 2017. Mm-hmm. Voilà. Et ça a été… En fait, je commençais à me reconnecter à ce dont j'avais besoin. Donc, je répondais aux besoins de mon corps de pouvoir se ressourcer, de pouvoir récupérer. Anne Évrard, dans son livre, parle de pouvoir remplir son pot de petite cuillère. Donc, j'essayais petit à petit de remplir mon pot de petite cuillère, tout en ne le vidant pas dès que je ressentais qu'il était bien rempli et que donc j'avais de l'énergie, parce qu'à ce moment-là, il se vide automatiquement et on a l'impression d'être vraiment en yo-yo, et c'est très décourageant, parce qu'alors on se dit on redeviendra jamais un peu comme on pouvait l'être avant. Et d'une certaine manière, non, mais c'est pour un mieux, parce qu'on fonctionne en fait différemment. On récupère des ressources, oui, mais on les utilise différemment. Donc, en ça, oui, on n'est plus comme avant. Et donc, là, par contre, avec cette formation, si je puis dire, j'allais me nourrir. Je ne savais pas encore, mais j'allais partir à la découverte de ces lumières, mais aussi de ces ombres, à ouvrir parfois certaines boîtes qu'on n'est peut-être pas forcément toujours content d'ouvrir, mais c'est pour un mieux aussi. Et voilà, je peux vraiment dire que cette année-là, avec la rencontre de toute une série de personnes, dont de ce médecin, dont de cette école, avec toutes les belles rencontres que j'y ai faites, ça a été vraiment pour moi le début d'un génial jeu de loi, quoi, vraiment.
Et donc, du coup, là, tu as commencé à sentir plus d'énergie. Et,
oui.
C'est ça. Et donc, à partir d'un moment donné, tu savais que tu ne voulais plus retourner à l'endroit où tu avais travaillé avant, et quand est-ce que tu t'es vraiment sentie prête à envisager éventuellement un retour dans le monde du travail?
En fait, mon médecin, donc j'étais en incapacité de travail, et pour suivre une formation, je devais avoir l'accord de non seulement de mon médecin qui me suivait, mais également du médecin de la mutuelle. Et j'ai eu aussi la chance, en fait, de rencontrer à chaque fois, quand j'étais convoquée à la mutuelle, de rencontrer à chaque fois, sauf une fois, où là, ça a été un médecin qui était vraiment horrible, disons-le comme ça. D'ailleurs, il a été viré par la mutuelle. Pourquoi? Ben parce qu'il déconstruisait tout le travail, il détricotait complètement tout le travail de reconstruction que la personne avait pu faire en la culpabilisant. Et je n'étais pas du tout la seule avec qui il avait réagi comme ça. Mon médecin traitant, d'ailleurs, le connaissait malheureusement bien. Et donc, il a pu travailler là. Mais ce que je voulais dire, c'est que les autres médecins, hormis lui, se sont toujours montrés, mais très compréhensifs, très, très humains. Et il voyait, en fait, dans ma demande de formation, l'accord, ben, comme une proposition de quelqu'un qui a envie de se reconstruire et qui pose l'une après l'autre des petites briques pour pouvoir aller mieux. En fait, ça participait vraiment ben, au traitement et à la guérison. Et j'ai donc effectivement, ben, je me suis inscrite en septembre pour commencer ce parcours-là. Et en parallèle, puisque je lâchais prise, en fait, du coup, il y avait des choses que je comprenais mieux sur moi. Donc, c'est comme si pendant un certain nombre de mois, une fois que je me suis arrêtée, j'étais complètement déconnectée de mes vrais besoins, de ce que j'avais vraiment envie de faire et de ce qui me correspondait. Et qu'à partir du moment où j'ai pu rencontrer les bonnes personnes, où j'ai été bien suivie, accompagnée, là, bouf, c'est comme si, à un moment donné, ben, y avait plein de, j'ai envie de dire, plein de canaux chez moi qui étaient ouverts, ou en tout cas où je comprenais mieux certaines choses, où j'étais beaucoup plus réceptive à ce qui pouvait me correspondre et ce qui pouvait me faire du bien, vraiment. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, vraiment d'être reconnectée un peu à soi-même, mais à tous les niveaux, à la fois à ce qu'on pense, à la fois à ce qu'on ressent dans son corps et au niveau de ses émotions. Parce qu'à ce moment-là, je me souviens que ben je m'intéressais déjà depuis un petit temps aux pédagogies alternatives, dont les pédagogies actives au sens large. Et ma fille venait de rentrer en première maternelle dans une géniale école où franchement, l'équipe éducative... je la cite parce que c'est l'école des lutins à la huppe qui sont extraordinaires. Elle donnait vraiment envie de travailler avec elle. Mais seulement, je ne me revoyais pas re-suivre 3 ans pour être instite maternelle. Mais là, vraiment, je regoutais vraiment à toute une série de choses, en fait. Et donc, ben, j'ai réfléchi à me dire comment, éventuellement, je pourrais me retrouver, oui, auprès d'enfants pour leur redonner confiance en eux par rapport à des difficultés qu'ils ont à l'école. Et je me suis souvenue, en fait, qu'effectivement, pendant très, très longtemps, j'avais voulu être prof. Et que j'avais abandonné ça parce que j'avais peur de ne pas être à la hauteur des profs super que j'avais eus. Donc, ça a été vraiment l'occasion aussi de me rendre compte que j'ai vraiment eu la chance de croiser vraiment des super personnes qui m'ont inspirée, qui m'ont permis de découvrir des choses qui pouvaient me correspondre à moi aussi. Et donc, ben, assez vite, en fait, je me suis dit, tiens, pourquoi tu ne pourrais pas aussi commencer par te doter d'outils, d'une formation pour des outils pédagogiques, didactiques. Et c'est comme ça que, bon, là, je fais vraiment un raccourci dans le temps, mais c'est comme ça aussi que je me suis renseignée pour suivre ben, l'agrégation, pour pouvoir, du coup, m'imaginer à pouvoir comprendre comment on pouvait apprendre aux autres ou quels étaient les mécanismes pour permettre... Voilà, d'apprendre ou de transmettre et de permettre aux gens comment apprendre, retenir, enfin, tout le système au niveau cognitif, de compréhension, etc. Et donc, en parallèle, effectivement, mais bon, mon médecin était hyper strict avec moi en disant, Caro, c'est super parce que tu as besoin de te nourrir et tu entreprends des choses pour le faire, mais alors, vraiment en retour, tu limites tout ce que tu fais chez toi et quand tu reviens de tes cours, tu te reposes. Donc, c'était vraiment le contrat. Et c'était le contrat aussi que le médecin de la mutuelle m'avait dit, quoi. Donc, j'ai pu faire aussi la formation de l'agrégation bah, avec un étalement sur 2 ans. Parce que sinon, bah, là, clairement, ça n'aurait vraiment pas été possible de devoir... Et en fait, ces formations, pour donc répondre à la question de la reprise d'une activité, d'une reprise de travail... C'était déjà une espèce de pied à l'étrier. Parce que s'asseoir, être dans une même position pour pouvoir écouter, comprendre, prendre des notes, faire des exercices, suivre une conversation, ça paraissait être, ça paraît aujourd'hui pour bon nombre de gens des choses naturelles et élémentaires, mais pour moi et pour les personnes qui peuvent vivre un épisode de burn-out, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et ça aussi, d'ailleurs, ça fait peur, parce qu'on se dit, mon Dieu, j'ai l'impression que je ne comprends plus, que j'ai du mal à écouter une conversation, à retenir des choses. Donc, vraiment, l'épuisement, il se vit à différents niveaux, quoi. Et c'est très perturbant. Et donc, ça a été vraiment, vraiment un moyen de pouvoir me retester petit à petit, justement, ces formations. Et puis par un hasard, encore une fois, c'était encore après un an, c'était dans le courant de l'année 2018. Les formations se passaient vraiment très bien. Je faisais vraiment une fois de plus de très chouettes rencontres qui me confirmaient que voilà, je me sentais en tout cas à ma place. Je ne savais pas encore comment tout ça allait s'agencer, mais en tous les cas, j'essayais de ne pas trop me poser de questions sur l'avenir, ce qui, rien qu'en soi, me bouffait une énergie dingue parce que je devais contrôler toutes ces questions-là. Je croise une journaliste d'un magazine féminin, on sympathise, et puis 2-3 mois après, elle me recontacte, l'été 2018, elle me contacte pour me dire « Caro, voilà, la rédac en chef me propose de faire une nouvelle chronique de portraits de femmes qui vivent peut-être certains chamboulements. Et j'ai pensé à toi, est-ce qu'on pourrait faire un test? Tu serais en fait voilà, la personne avec qui je pourrais faire le premier test de la chronique pour le soumettre à la rédac en chef. Et ben, du coup, si ça passe, ben, tu serais la première à être publiée. » Moi, évidemment, ce genre d'expérience, bah, ça me fait un petit peu… Je me pose des questions, mais je suis plutôt curieuse. Et une fois que je suis en confiance avec les personnes, j'y vais. Donc, je l'ai fait. Et ça a marché. Elle m'a fait un très, très beau portrait. C'était une super expérience. Sauf que le truc que je n'avais pas imaginé, c'est que eh ben, forcément, auprès de mon ancien employeur, donc, il y avait pas mal de personnes qui lisaient ce magazine et qui, du coup, ont aussi pu voir voilà, ce que je devenais. Mais ce n'était pas un secret en même temps, mais c'est vrai que je n'avais plus de contact avec elle. Et donc là, je me suis dit, bon, ben, ouais, le moment est venu peut-être de recontacter voilà, le DRH pour voir un peu ce qu'on fait. Et vraiment, ben, l'eau avait coulé sous les ponts, j'allais mieux déjà. Je me sentais quand même déjà beaucoup plus sereine à l'idée de pouvoir les revoir. Bon, l'équipe avait un petit peu changé, mais bon, certaines personnes restaient là et j'étais vraiment en confiance avec elles. Je n'avais jamais eu de problème. Et donc, voilà, on a pu discuter et puis mettre un terme au contrat. Et voilà, je veux dire, je l'ai vraiment vécu vraiment de manière positive, comme étant quelque chose de sain, en fait. Je me sentais plus, j'étais plus liée et je continuais de prendre soin de moi. Et donc,
ça t'a soulagée d'une certaine manière.
Effectivement soulagée, mais ça s'était passé d'une manière tellement fluide, tellement sereine. Franchement, j'ai une chance de dingue parce que je sais que ça ne se passe vraiment pas toujours comme ça. J'accompagne des personnes en note placement aujourd'hui et malheureusement, il y a des licenciements qui sont vraiment de manière assez violente ou en tout cas de manière assez douloureuse. Et donc, je me rends vraiment une fois de plus compte que j'ai eu de la chance. Et donc, du coup, voilà, j'ai pu poursuivre mes formations. J'ai aussi eu énormément de retours, en fait, de toute une série de personnes avec qui j'avais bossé auprès de mon employeur et je ne m'attendais pas du tout à ça.
Mais des personnes qui ont enfin pris contact avec toi, qui n'avaient peut-être pas osé
entre-temps. En fait, qui ont su, enfin, c'est-à-dire que ce que j'ai fait, c'est que ben, voilà, j'ai envoyé un mail à un grand nombre de personnes avec qui j'ai eu la chance. Je travaillais dans les ressources humaines, donc autant dire que ben, on travaille avec beaucoup de personnes à un moment donné pour faire des recrutements partout, en fait, dans l'entreprise. Et comme c'était une grosse boîte, ben, du coup, j'ai croisé beaucoup, beaucoup de personnes. Et donc, j'ai envoyé un mail à un certain nombre de personnes pour leur annoncer voilà, que je quittais l'institution et que je les remerciais vraiment pour la collaboration et que voilà, j'espérais qu'un jour, peut-être, nos chemins puissent se recroiser. Et ce à quoi je m'attendais vraiment, mais vraiment, vraiment pas, c'est qu'ils m'ont quasiment tous répondu pour me remercier et pour me donner un feedback vraiment du travail qu'ils avaient fait avec moi et dont ils étaient vraiment très contents. Et je dois dire que ben, c'est venu une fois de plus remplir un peu mon pot de petites cuillères, mais des cuillères différentes, devenir un peu reconstruire, enfin contribuer aussi à reconstruire un peu ma confiance en moi et mon estime de moi, ben, parce que forcément, ben, un burn-out, comme je l'ai dit, comme on est complètement retourné dans tous les sens, on se pose aussi beaucoup de questions sur qui on est, ce qu'on vaut, et donc recevoir des messages comme ça contribue aussi à avancer. Et à alimenter des réflexions dans le sens où ben, je me suis dit à recevoir autant de feedback, de messages de personnes qui vont dans le même sens par rapport à un type de travail autour notamment donc, de l'accompagnement des personnes, de certaines qualités personnelles qui étaient soulignées. Alors, je ne dis pas ça pour me vanter, mais vraiment, ça m'a permis en fait, de recevoir des informations qui ont alimenté mes réflexions par rapport après, du coup, à mon projet professionnel. Et je me suis dit que ben, finalement, ce n'est pas parce que j'avais rompu un contrat avec un employeur qu'il n'y avait pas des ingrédients que je ne pouvais pas conserver. Donc, en gros, il ne fallait pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et c'est comme ça que je me suis dit, ben, au fond, peut-être que, ben oui, l'accompagnement des personnes, je pourrais mettre à profit mon expérience professionnelle dans les ressources humaines, le recrutement, l'accompagnement des personnes qui voulaient changer de travail, donc l'accompagnement pour la mobilité professionnelle. Peut-être qu'en fait, je pouvais récupérer des éléments en termes de connaissances, de compétences, de qualités, pour pouvoir les recomposer et les intégrer dans un projet avec les contours que moi, je dessinerais, où je mettrais du coup mes valeurs, où je pourrais vraiment y mettre toutes les couleurs qui faisaient sens en fait à nouveau pour moi. Alors ça voulait dire aussi qu'il fallait en prendre conscience de tout ça, qu'il fallait aller de nouveau à la recherche de tout ça, ou bien en tous les cas de les confirmer. Et c'est un peu le rôle de nouveau que les formations ont pu jouer, et de toutes les rencontres aussi. Donc vraiment, enfin, un conseil que je donne souvent aux personnes que je croise, que j'accompagne, mais que je tire vraiment de mon expérience perso pour l'avoir vécu, c'est qu'une chose, c'est de réfléchir, mais à un moment donné, vraiment, ce qui contribue à alimenter et même parfois à accélérer les réflexions et à donner vraiment des confirmations, c'est d'aller voir sur le terrain, d'aller à la rencontre de personnes, de partager, d'échanger. Et même si ça paraît peut-être bateau, la question effectivement qu'on peut poser quand on cherche à se réorienter des passions, des centres d'intérêt, mais pourtant, en fait, on n'a pas envie d'y réfléchir ou on n'ose pas y réfléchir parce qu'on se dit bah, à quoi ça va me servir, je ne pourrai jamais l'intégrer dans un projet, il faut arrêter de rêver, on n'est pas dans le monde des bisounours, j'ai besoin de gagner ma croûte et aujourd'hui, voilà, je peux pas imaginer de faire de ma passion ou d'un centre d'intérêt ou d'un truc, l'intégrer dans mon travail. Ça, encore une fois, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Il ne s'agit pas nécessairement toujours hein, de faire un virage à 180 degrés, tout plaquer pour aller, comme on dit, d'aller élever des chefs dans le Larzac, bien que parfois ça peut se réaliser, mais ce n'est pas nécessairement toujours ça. Et parfois, ben, déjà en changeant juste l'un ou l'autre ingrédient, sans pour autant réinventer la roue ou tout chambouler, ça change déjà énormément. Et un changement, un tout petit changement peut en amener un autre et rendre justement, j'ai envie de dire, ben, ces transitions moins anxiogènes. Et on peut avoir beaucoup plus facilement confiance parce que déjà, on voit que les autres l'ont fait. Ça a peut-être pris un certain temps et qu'on peut vraiment le faire non seulement à son rythme, mais en tenant compte effectivement aussi de, ben, j'ai envie de dire, de toute une série de contraintes, de dimensions voilà, qui font partie de la vie de chacun. Mais en tous les cas, vraiment, aller à la rencontre de personnes, aller voir concrètement sur le terrain, de discuter avec des personnes, permet, encore une fois, j'en reviens toujours à ça, de se reconnecter parce qu'on ne va pas se rendre compte, mais on va réagir, ça va peut-être réallumer le bec Bunsen. Oui. Ça va peut-être, et en ça, en fait, de nouveau, on va peut-être changer l'ordre, ça ne va peut-être pas être le mental, les pensées qui vont guider, du coup, nécessairement toutes les décisions, ça va être aussi les ressentis de ce qu'on va avoir en termes peut-être de frissons, en termes de joie, en termes d'étonnement, de surprise, d'intérêt, de curiosité. Et ça, ce sont autant d'éléments vraiment dont il faut tenir compte et qui, à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, pourront peut-être être intégrés ou pas. Mais en tous les cas, ça permettra de pouvoir avancer et de faire des pas en mettant le plus de sens pour soi et moins par rapport aux attentes des autres. Même si, effectivement, il faut aussi intégrer à un moment donné les attentes qu'on peut avoir quand on vit dans un couple ou quand on a des enfants. Effectivement, il faut, entre guillemets, il faut. C'est compliqué d'en faire complètement fi, évidemment, mais en tout cas, de veiller aussi à les intégrer pour avoir un meilleur équilibre, quoi. Mais c'est possible, c'est possible. Mais effectivement, ce n'est pas une opposition. Ça suppose effectivement de pouvoir se bouger plutôt que de rester à un moment donné avec ses peurs, en train de ruminer, tourner en boucle et de donner plus le micro à ses peurs, à ses a priori, qu'à se rendre compte de la réalité et de tous les possibles, en fait, de ce qui est réalisable.
Oui, c'est parce que j'aime bien comme tu dis ça, parce que c'est vrai que en fait, c'est passer à l'action et pas toujours se dire je passe à l'action parce que ça va apporter ceci, ça va apporter ceci. On ne sait pas toujours à l'avance.
Non.
Donc c'est passer à l'action et puis après,
On voit.
on voit et parfois on ne voit pas tout de suite ce
Tout
que
à
ça nous
fait.
a apporté, mais c'est intéressant. Après, on se dit, mais tiens, en fait, tout ça. C'est tout des petits points qui finalement, il y a un fil rouge quand même qui ressort et qui chaque petit pas finalement nous apporte quelque chose quoi.
Tout à fait. En fait, et j'en fais encore l'expérience aujourd'hui parce que j'ai envie de pouvoir encore développer des activités pour accompagner des personnes d'une autre façon. Et je me reconnais, donc ce que je dis, vraiment, je l'éprouve encore même aujourd'hui, hein. Et en fait, ben, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai envie de continuer d'accompagner les personnes, mais d'une autre façon. Peut-être pas nécessairement en parlant. Je rêve de pouvoir intégrer donc les animaux et en particulier les chats. Donc, je propose aussi des ateliers, voilà, qui se passent notamment en forêt avec des activités, des exercices de coaching en forêt. Et c'est vrai que j'aime donner le moins d'instructions possible, par exemple, aux personnes, pour qu'elles se laissent vraiment, pour qu'elles y aillent à l'aveugle et qu'elles soient le plus réceptives à tout ce qu'elles vont ressentir et tout ce qui va se passer. Et c'est après qu'on récolte les infos et c'est après qu'on peut éventuellement faire des liens ou comprendre. Mais au plus on va à l'aveugle, à partir du moment où on en a envie, à partir du moment où on se sent un peu attiré, là, effectivement, c'est dans ça qu'on peut parler un peu de se lâcher prise. Lâcher prise, c'est accepter de moins vouloir contrôler les choses. Mais j'ai une indication en ce qui me concerne pour moi aujourd'hui, c'est qu'au plus je me dis, j'ai envie, mais je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je ne sais pas, alors c'est au contraire une super indication et c'est comme ça que j'y vais. Une fois que je ressens ça, j'ai envie, mais je ne sais pas ce que ça va donner, ou je ne sais pas où ou comment, eh bien, ok, tu as au contraire le signal que c'est vers ça qu'il faut aller. Et après, on voit. Voilà. Après, évidemment, quand ça peut impliquer des choix qui peuvent impliquer, par exemple, de l'argent ou des changements, mais effectivement, il faut quand même mesurer un peu, prendre en compte certains aspects. Mais quand on est ici, je parle d'expériences comme des rencontres de personnes, d'aller prendre des renseignements, de vivre une expérience, voilà, et que, entre guillemets, ça coûte juste du temps et un peu d'énergie, et que, ben voilà, ça pourrait juste nourrir la curiosité et que on se dit que, ben voilà, on va retirer des infos, même si on se rend compte que ça ne nous correspond pas, eh ben c'est utile, en fait. C'est pour ça que les gens ont tellement peur de se dire, et si c'est pas le bon choix? Eh bien oui, eh ben justement, c'est pour ça qu'il faut le faire, parce que c'est comme ça que tu en auras la confirmation, et que tant que tu le fais pas, tu le sauras pas, et que tu resteras toujours avec ce doute. Donc, je veux dire, c'est pas moi qui le dis, c'est les vertus de l'échec, hein, Charles Pépin, qui a écrit un bouquin là-dessus. En gros, c'est, voilà, comme beaucoup de personnes, il n'y a pas d'échec, il y a, comme on dit, il n'y a que des apprentissages. Même si on se rend compte que ça ne nous correspond pas, eh bien, du coup, on sait mieux ce qui nous correspond. Et on ne le sait que parce qu'on l'a fait.
Oui.
Voilà.
Mais si on revient juste un peu en arrière, quand est-ce que finalement tu t'es dit sortie de ton burn-out? À partir de quel moment et quel a été finalement le départ, enfin le nouveau départ finalement?
Mais ça a été vraiment, j'ai envie de dire, si on le voit comme un tunnel, j'ai marché, je commençais petit à petit à voir la lumière. Alors, au départ, la lumière au bout du tunnel, c'était un micro-point. Et ça, j'ai osé le voir parce que j'avais besoin de voir qu'à un moment donné, ben, oui, effectivement, on allait en sortir, j'allais en sortir au moment où j'ai commencé à suivre ces formations parce qu'elles me nourrissaient. Je ne savais pas encore vers quoi justement ça allait déboucher, mais j'avais déjà un peu l'impression de voir la lumière au loin, au bout du tunnel, parce que je revivais un peu, quoi. Et réellement, là où j'ai remis vraiment le pied à l'étrier, ben, c'est quand j'ai eu l'occasion de pouvoir me lancer comme indépendante avec mes premières missions. Alors, j'ai coaché des personnes chez moi, mais ça, vraiment, je pouvais réguler le rythme. Donc, c'était vraiment, encore une fois, hein, une remise douce au niveau de l'activité, à gérer mon agenda et des rendez-vous. Mais là où je peux vraiment dire que j'ai repeint, j'ai vraiment repris de manière beaucoup plus intense et où je devais d'autant plus être prudente, c'était en septembre 2019. C'était donc, je réfléchis, c'était 2019 ou 2020, je ne sais plus, par rapport au confinement, on a un peu chamboulé, où on m'a confié une société qui, partenaire du Forum, m'a proposé de m'engager comme freelance pour accompagner des groupes de demandeurs d'emploi du Forum, à donner donc des formations avec des coachings individuels. Et donc là, j'étais partie sur une mission de 2 mois à accompagner un groupe à Charleroi où je donnais une fois ou deux des formations par semaine et où j'avais des entretiens individuels qui étaient étalés sur 2 mois. Donc ça a été vraiment ma première vraie mission, plus soutenue, avec des trajets aussi. Donc c'est pour ça vraiment que je la prends vraiment comme la première vraie expérience qui m'a remise en selle, où j'ai vraiment dû faire gaffe, hein, parce que effectivement je me sentais repoussée des ailes, mais je pouvais très vite, elle pouvait très vite tomber à nouveau ses ailes, parce que justement le pot de cuillère se revidait très rapidement. Et donc voilà, ça a été, si je dois vraiment réfléchir aussi à ces étapes-là, je pense que ça a été la première vraie étape où je me suis vraiment vraiment retestée. Après, quand je dis que je dois, aujourd'hui je vais bien, mais je dois toujours rester vigilante, c'est que par la suite, j'ai accepté plusieurs missions, même plusieurs missions simultanées, où là, j'ai frôlé la rechute, vraiment. J'étais sur le fil, quoi, parce que, de nouveau, on a envie de pouvoir se reprouver, quoi. Et on a peut-être alors du coup des vieux réflexes qui reviennent, à ne plus écouter son corps une fois de plus, à pouvoir vouloir vraiment outrepasser certaines limites qu'on n'a pas envie de voir. On n'a pas envie de se dire non, en fait, à soi-même déjà, pour en plus devoir le dire après aux autres. Et là, vraiment, l'été qui a suivi, c'était l'année passée. Là, ça a été très, très, très compliqué. Il faut dire que j'avais 3 missions en même temps et je faisais vraiment, c'était plus qu'un temps plein. Mais ça m'a permis, une fois de plus, de pouvoir ressentir ce qui me convenait, ce qui ne me convenait pas, à la fois au niveau du volume et aussi au niveau, j'ai envie de dire, du type d'activité. Donc, c'était vraiment bénéfique d'une certaine manière. Pour autant qu'à un moment donné, j'ai tout de suite mis le haut là. Parce que sinon, j'aurais vraiment pu à nouveau refrôler un nouveau burn-out.
Pardon, le côté indépendant, du coup, maintenant que tu connais un peu mieux tes limites, tu fais attention et donc, du coup, tu jauges. Et ça, c'est peut-être l'avantage d'être indépendant au niveau des missions. Tu peux un peu voir, en tout cas, en termes comme de charge de travail, etc., un peu modulé en fonction de ton énergie, quoi.
Oui, si ce n'est que, les personnes qui sont indépendantes et qui travaillent chez elles, ce qui est principalement mon cas, je veux dire, il n'y a que pour effectivement des rendez-vous à l'extérieur où là, je sors de chez moi, ou pour les ateliers où je sors de chez moi, mais l'essentiel de mon temps, je le passe quand même dans mon bureau, dans ma maison. Et où là, ça relève vraiment. Et je pense que si d'autres personnes qui sont dans mon cas m'entendent, elles s'attendent à ce qui va suivre, c'est que c'est un vrai challenge de résister à toutes les tentations que l'on peut voir et qui ont trait à la maison, au ménage, au paiement des factures, à la sortie ou à la rentrée des poubelles ou vraiment toute une série de choses où il faut vraiment du coup être très très au clair et très discipliné. Par rapport à la répartition justement de ça, être au clair entre les activités pro, les activités perso et aussi vraiment des activités de ressourcement ou de pause. Parce que le risque, c'est qu'en fait, à un moment donné, il n'y a aucune pause quoi, au cours de la journée, puisque si on travaille dans un bureau externe, la pause à midi, on peut peut-être sortir, on peut aller prendre son sandwich à l'extérieur. Sauf que quand on est chez soi, on a du pain chez soi, on a de quoi se faire à manger, donc on reste à la maison, on peut en profiter pour faire la vaisselle ou pour lancer une machine ou pour faire ci ou ça. Et donc, à un moment donné, il n'y a pas de petit ou plus grand moyen de moment de récupération. Et tout se confond, et ça, c'est un gros piège. Donc, ça peut être une facilité, mais ça peut être aussi un danger. Tout comme aussi, quand on est indépendant, d'apprendre à en fait, à pouvoir dire non aussi. Et ça, j'ai appris encore tout récemment de reposer un cadre par rapport à des clients, par rapport à des partenaires, par rapport à des conditions. On pensait que c'était au clair et en fait, ça ne l'est pas forcément. Donc, c'est vraiment une clarification et vraiment une communication, j'ai presque envie de dire récurrente, d'un cadre. Et qui dit cadre dit aussi, à un moment donné, limite. Et c'est vrai que c'est un mot qui ne fait pas plaisir, parce que ça peut, voilà, ça peut dire des renoncements, ça peut vouloir dire des contraintes, mais pourtant, c'est nécessaire. Sinon, on se laisse dépasser. Voilà, comme on le dit, hein, le burn-out, c'est la maladie du trop, en fait, à plein de niveaux. Et pour ça, ce n'est pas pour rien que un certain nombre d'indépendants aussi vivent un burn-out, parce que c'est compliqué de pouvoir... respecter un cadre, déjà de le voir, de le poser, mais de devoir le respecter et après de le faire respecter par les autres. Donc, effectivement, en fait, on peut être, en tant qu'indépendant, on peut être son meilleur ami puisqu'on décide de soi ce qui peut être bon, mais on peut être aussi son pire ennemi, son pire patron, parce qu'on peut être guidé par justement des injonctions que l'on se met à soi. De vouloir faire plus, de ne pas oser dire non, d'avoir peur de perdre un client, d'avoir peur, on ne va pas dire non parce qu'on ne sait pas, tiens, les prochains mois, comment ils vont se passer au niveau des rentrées et tout ça. Donc, y a un certain nombre de petits diablotins qu'on n'a peut-être pas forcément quand on est salarié, qu'il faut apprivoiser, en fait.
Des challenges des deux côtés, oui. Finalement.
Exactement.
Il faut essayer de... Mais comme tu as bien dit, c'est que tu vois bien quels sont les challenges, tu es bien au courant des challenges de l'indépendant et du coup, tu essayes, oui, comme on peut, en fait, hein, mettre des choses en place, effectivement, prendre du temps pour soi et essayer de se mettre des limites. C'est vrai que quand on travaille chez soi, maintenant, il y en a quand même beaucoup d'employés qui font aussi du télétravail pour qui c'est compliqué aussi. Donc,
tout
voilà.
À fait.
Mais on arrive tout doucement à la fin de l'épisode, donc je voudrais te demander une dernière question, te poser une dernière question qui serait, qu'est-ce que tu voudrais laisser comme message aux personnes qui vivent la situation pour l'instant, qui sont du coup en plein burn-out ?
Un conseil, veillez à être bien entouré, en tout cas par des professionnels qui pourront vous aider à traverser un peu la tempête de la manière la plus confiante et la plus sereine possible pour que vous puissiez justement, comme j'ai eu la chance de le faire, de pouvoir vraiment mieux vous reconnecter à vous, à qui vous êtes, à ce dont vous avez besoin. Parce que la question des besoins est peut-être une question très simple sur la forme, mais parfois elle est très compliquée au niveau des réponses à trouver sur le fond des réponses. Et reconstruisez votre confiance en vous pour pouvoir justement avoir confiance en la vie et à pouvoir être ouvert à toutes les opportunités qui vont s'ouvrir à vous, parce qu'il y en a. Donc, faites-vous bien accompagner, entourez-vous de personnes qui vont vous soutenir comme elles le peuvent, à leur mesure, avec leurs moyens, et d'une manière ou d'une autre, entretenez ou reconstruisez vraiment votre confiance en vous pour pouvoir justement faire ces petits pas et le faire vraiment avec le plus de confiance et de sérénité possible pour pouvoir justement avoir l'espoir et de croire que le chemin vaut vraiment la peine d'être parcouru, même si il est jonché de plein de points d'interrogation. Et c'est super aussi.
Merci beaucoup, Caroline.
Avec plaisir.
Merci beaucoup pour plein de petites sagesses que tu nous as donné tout le long de l'épisode et pour ton témoignage, ton parcours qui était très riche à écouter.
Avec plaisir. J'espère que il pourra profiter à d'autres personnes et que d'autres personnes pourront retrouver un peu d'espoir si elles se posent plein de questions. On n'y croit pas, on se croit souvent perdu, mais même au bout du no man's land, à un moment donné, il y a des chemins qui se dessinent. Donc, il faut vraiment garder espoir et y croire, quoi.
Merci beaucoup, Caroline.
Avec plaisir. Au revoir et belle journée à toi. Et merci pour l'expérience. Merci à toi, Victoria.
Ouais, de rien. Merci beaucoup. À bientôt.
J'espère que ce témoignage t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à nous le dire et à partager celui-ci autour de toi. Merci beaucoup pour ton écoute et à très bientôt pour un prochain épisode.